gloire, nous te rendons grâce d'être ici ce matin et comme l'a prié notre frère, nous voulons te demander de répandre ta parole au milieu de nous, faire entendre ta parole, que l'on puisse se soucier ce matin de qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur et non pas dans les nôtres, qu'on puisse se soumettre à toi ce matin pour entendre parler de toi. Merci Père de répandre ton Saint-Esprit au milieu de nous, sur ce petit reste qui te cherche et qui cherche à entendre ta voix et que tu veux utiliser pour réveiller, si telle est ta volonté, toutes ces brebis qui sont égarées. Parce que Seigneur, c'est vrai que notre Église en général, ce n'est pas l'Église de Perpignan ni celle de Ganty, c'est l'Église en général, est une Église qui sombre, Seigneur. Si nous regardons ta parole, si nous lisons les Écritures, et si nous comparons notre Église, nos fruits, ton agir à ce que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons dire, le dit Ésaïe 63, nous sommes depuis longtemps un peuple sur lequel tu ne règnes plus. Seigneur, ce matin, on veut se courber devant toi et essayer de chercher qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur et de pouvoir l'entendre. Dieu de gloire, viens bénir cette parole par le puissant nom de Jésus et par la force vive de ton Saint-Esprit dont nous avons besoin, par ta sainteté et ton amour. Amen. Vous connaissez bien ces paroles de Paul qui sont des prophéties à Timothée et qui parlent de ce temps où il demande déjà à Timothée, il le conjure devant Dieu, de Timothée 4, verset 1 et suivant, et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume. Il conjure Timothée devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume qui vient bientôt, il lui dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps, et ce temps est là, bien-aimé, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et c'est un peu ça que le Seigneur me met à cœur de prêcher ce matin. La parole nous dit, c'est tiré d'un psaume, on lit ça dans l'Épître aux Romains, que Dieu regarde et sonde les fils de l'homme et il n'y en a pas un qui cherche Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et on est dans cette génération où la plupart qui cherchent Dieu, ils cherchent Dieu pour eux-mêmes. On christianise le vieil homme dans l'Église aujourd'hui. On a un vieil homme que l'on christianise. On a des hommes qui veulent recevoir de Dieu. Ils veulent être bénis de Dieu. Ils veulent parfois servir Dieu, mais ils ne veulent pas laisser Dieu se servir d'eux. Ils veulent parfois servir Dieu, mais pas laisser Dieu se servir d'eux. Et derrière cela, subtilement, l'homme se sert lui-même et ne sert plus la gloire et les intérêts de Dieu. Et alors, il se détourne vers ce qui sont aujourd'hui de véritables fables et il se donne une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voyez, avant de parler un petit peu de cette génération, j'aimerais vous donner cette parole du prophète Jérémie, chapitre 13. Verset 1. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins. Mais ne la trempe pas dans l'eau. Cette ceinture de lin, bien-aimé, c'était à l'époque un sous-vêtement que l'on appliquait directement sur la peau. Et quand Dieu dit « Achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins », ça veut dire que c'était mis sous les habits, directement au contact de la peau. Et il lui dit « Mais ne la trempe pas dans l'eau. » L'eau, c'est un symbole ici de la souillure d'Israël. Ne la trempe pas dans l'eau, garde-la pure. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, prends cette ceinture et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachais près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, « Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné de cacher. » J'allais vers l'Euphrate, je fouillais et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda. » Et l'orgueil immense de Jérusalem. L'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture aux reins d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont pas voulu venir à moi. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. On peut prendre le verset 15. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux. Dieu parle à l'Église d'aujourd'hui au travers de ses paroles. Dieu parle au monde antichristique établi aujourd'hui. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. L'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds se heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Verset 22, si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il ? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien ? Pourriez-vous chercher Dieu ? Pourriez-vous vivre Christ ? Pourriez-vous aimer Dieu ? Non pas pour vous-même, mais pour lui. Vous qui êtes accoutumés à faire le mal, vous qui êtes accoutumés à apprendre Dieu pour vous. Je les disperserai comme la paille emportée par le vent. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pans sur ton visage afin qu'on voie ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier ? Vous savez, j'aimerais peut-être fermer la Bible et aller me rasseoir après avoir dit ça et vous laisser méditer profondément sur le cœur de Dieu. On a bafoué la parole de Dieu. On a bafoué le salut de Dieu. Dernièrement, vous voyez, je prêchais sur cette fête biblique de Yom Kippour, du grand pardon. Et je prenais les textes de l'Alliance qui nous parle de Yom Kippour. Je montrais au travers d'un livre une reconstitution au travers de peintures qui ont été faites de comment se passait ce rituel du Yom Kippour. La Torah, la loi, c'est les bases qui nous aident à comprendre le salut en Jésus-Christ. Et cette prédication a été un temps particulièrement fort, où l'Esprit de Dieu est venu au milieu de nous pour nous saisir et nous dire, voyez ce que vivaient vos pères. Voyez la crainte qu'ils avaient de Dieu. Dieu a montré comment faire l'expiation pour que l'on ne meure pas devant lui. Et quand on regarde comment ce Yom Kippour se passait, et qu'il est là pour nous instruire de qu'est-ce que le salut en Jésus, on voit qu'on a négligé un si grand salut. On voit que on s'est, j'ose le dire, réellement moqué de Dieu. On loue le salut de Dieu en l'air sans prendre conscience. Et vous voyez, avant tout, c'est le cœur de Dieu qui est peiné. C'est le cœur de Dieu qui souffre. Aujourd'hui, les fondements sont ébranlés. On vit un temps de confusion. Je répète souvent, dans les églises où je passe, ce chapitre 7 de Michée qui nous dit « Le jour annoncé par tes prophètes » et on vient de le lire, et dans Timothée et dans Jérémie 13. « Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. » La récapitulation de toute chose, tout ce salut préparé depuis des millénaires au fil des siècles arrive à son aboutissement. Ce jour dont ont parlé les prophètes, dont a parlé Jésus, dont ont parlé les apôtres, il arrive, il est là, il est à la porte et le peuple, il est dans la confusion. Et le peuple, il ne cherche plus Dieu pour entendre sa parole, pour se purifier, pour apprendre à le craindre. Et ce jour, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de concret. Quand on lit la fin des évangiles, comme je le disais hier soir, regardez toutes les exhortations de Jésus. Oh, combien il donne nombre de paraboles pour nous dire une seule chose. Purifiez vos cœurs, veillez, sinon vous ne serez pas pris. Jésus, il est clair, bien-aimé. Jésus, il est clair. Celui qui ne se sanctifie pas, il ne sera pas pris. Jésus, il donne ses paraboles pour parler de concret, pour parler de réel. Il y a un filet qui va venir sur la terre. Et il va venir ce filet, bien-aimé. C'est concrètement que cela, ça va se passer. Et s'il donne toutes ses paraboles, toutes ses exhortations en disant « L'un sera pris, l'autre sera laissé, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » C'est parce que c'est vrai. Et s'il a tant exhorté qu'il a dit, comme on le disait hier, c'est seulement ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ces jours seront abrégés à cause des élus, sinon personne ne serait sauvé. On prend souvent cette parabole de la veuve importune qui importune ce juge. Et on ne se rend pas compte de l'enseignement qu'il y a derrière. L'enseignement qu'il y a derrière cette parabole, eh bien vous le lisez dans cet évangile de Luc, c'est que oui, Dieu fera promptement justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. Ces élus, c'est des gens qui veillent, c'est des gens qui prient, c'est des gens qui ont cette ceinture de lin collée à la peau. C'est des gens qui vivent une vie sanctifiée. C'est des gens qui vivent une vie consacrée. C'est des gens qui sont sortis de Babylone, qui nuit et jour crient à lui pour la délivrance, qui sont connectés à Dieu, vraiment réconciliés avec lui. Des gens dont le vieil homme est crucifié à la croix et qui sont nés réellement de nouveau. Voilà ces élus de Dieu. Mais aujourd'hui, vous voyez, les fondements sont ébranlés. Les fondements sont ébranlés. Et j'aimerais être clair avec vous, pour moi c'est une conviction, en particulier en Occident, on vit des temps de séduction, d'apostasie, de confusion, et on est tous pris là-dedans. Il n'y a pas un de nous, à moins qu'il soit un orgueilleux, qui peut se dire indemne de ces choses. On est né dedans. Comme je le disais sans rigoler, mais pour essayer de faire comprendre, notamment à des plus jeunes, c'est comme Obélix qui est tombé dans la potion magique dès tout petit. Eh bien nous, on est tombé dans la confusion, on est tombé dans la paresse, on est tombé dans le péché, on est tombé dans un moi tellement énorme qu'il est devenu incapable d'entendre la parole de Dieu, incapable de se convertir réellement, vous voyez. Osée chapitre 4, verset 1 nous dit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, il faudrait parler de la vraie miséricorde de Dieu, point de connaissance de Dieu dans le pays. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et l'Église, quand bien même nombreux peuvent se dire prophètes, apôtres, pasteurs, tout ce que l'on voudra, je veux oser dire que le sacerdoce du Dieu des Écritures, du Saint Dieu d'Israël, de ce Dieu de Yom Kippour, de ce Dieu du tabernacle, ce Dieu de Moïse, ce Dieu d'Élie, ce Dieu des prophètes, ce Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu des apôtres, ce sacerdoce, il est dépouillé. Où est le sacerdoce tel qu'il est établi dans la parole de Dieu? Parce qu'il n'y a plus de connaissance de Dieu, Dieu nous a dépouillés de son sacerdoce. Il est important de faire un véritable bilan parfois, en tant qu'église, en tant que pasteur. Voyez, je donnais le témoignage d'une dame qu'il me parlait qu'il pouvait être bon de chanter du rap, il pouvait être bon de faire plein de choses pour des jeunes, pour qu'ils puissent s'approcher du Seigneur, qu'ils puissent vivre des choses. Et je disais à cette dame, ma sœur, je ne veux pas te juger. En même temps, vous savez, l'homme spirituel juge de tout et ne relève lui-même du jugement de personne, dit l'apôtre. Et ces prophètes, ils étaient là aussi pour juger, pas pour juger leurs frères avec quelque chose dans leur cœur, mais au nom du Seigneur, donner un discernement spirituel. On ne peut pas juger, il y a deux termes grecs pour le jugement, il y a le jugement éternel, on ne peut pas condamner quelqu'un à mort, et on ne peut pas le juger faussement comme on peut le faire, mais on peut donner un discernement, un jugement spirituel. Et je disais à cette dame qui faisait plein de choses pour les jeunes, qui disait finalement, est-ce qu'on peut réellement prêcher la parole de Dieu aujourd'hui? J'y viens. Et je lui ai dit, ma sœur, peut-être même durant ces 10 dernières années, combien tu as de jeunes qui se sont réellement convertis? Qui sont des gens réellement convertis? Des hommes ou des femmes de Dieu qui servent le Seigneur? Pas forcément en tant que pasteur ou en tant que missionnaire, mais on est un sacerdoce bien-aimé. On est tous appelés à être une race de prophètes, de rois, et de prêtres. Où sont ces gens-là? Et cette brave dame, elle n'a rien pu me dire parce qu'il n'y avait personne. Alors ça a été un dur constat pour elle. Oui. Tout à coup, elle redescendait sur terre. Et elle voyait que les fruits de son ministère, ils étaient presque nuls. Alors on peut se rassurer en disant, je sème, je sème, je sème. Mais voyez, il y a un moment où on doit faire face à la réalité. Élie, quand il a invoqué le feu de Dieu, le feu, il est descendu du ciel. Les prophètes de Baal, ils pouvaient dire on sème, ils pouvaient faire tout leur programme, tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient même se scarifier, le feu, il n'est pas descendu, vous voyez. Et Dieu n'avait pas ramené leur cœur, et n'avait pas été glorifié comme le vrai Dieu d'Israël. Cette parole terrible, je continue de oser, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Regardez les familles, dans l'église chrétienne. Christ n'est plus établi dans les familles. Alors il y a des divorces, il y a des enfants qui partent n'importe où, alors que dans la Torah, c'est quelque chose d'essentiel. Et vous voyez ça dans le peuple juif. Comment il est un peuple encore aujourd'hui d'engendrer génération après génération. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce qui se passe dans l'Église catholique, ça se passe chez nous, évangéliques. Il n'y a plus aucun jeune dans les églises. Il y a des prêtres. On en a un, chez nous, qui a, sauf erreur, 24 clochers où il doit aller. Il fait bien sûr, je crois que j'exagère pas malheureusement, peut-être 10 fois plus d'enterrements que de baptêmes. Eh bien, il n'y a plus de jeunesse. Il faut qu'on se rende compte, qu'on prenne du recul et qu'on voit que ce qui se passe dans l'Église catholique, c'est ce qui se passe dans l'Église évangélique. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. C'est terrible ces paroles. Mais c'est ce qui s'est passé. Depuis la réforme, depuis les derniers réveils, notamment le dernier réveil de Pentecôte, on s'est multiplié, mais plus on s'est multiplié, plus on s'est dilué. Plus on s'est dilué et plus on s'est détourné de Dieu. Le psaume 11, verset 3 nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ?» Psaume 11, verset 3 « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? » L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Voyez, quand les fondements sont ébranlés, qu'est-ce que ferait le juste ? Eh bien, le juste, qui a l'amour de la vérité dans son cœur, quand bien même il est tombé avec tous les autres dans la marmite du péché, de la confusion et de la séduction, eh bien, il va tourner ses regards vers l'Éternel, qui est dans son Saint-Temple, dont la justice et la droiture sont la base, sont l'assise de son trône. Ces témoignages sont véritables, nous disent les psaumes. La sainteté convient à sa maison. Il va tourner ses regards vers cet Éternel qui le sonde. Le juste, il va se laisser sonder. Le juste, il va se laisser remettre en question. Le juste, il va prendre du recul sur lui-même, sur l'Église. Il y a, on pourrait dire, une machine ecclésiale aujourd'hui. Une machine ecclésiale faite de programmes, faite de tant de choses. Je répète, où sont les fruits ? Où sont les fruits ? On a absolument besoin de comparer nos pratiques, nos églises avec la Bible. On a besoin de se dire si Élie, si Paul, si Malachie, si Michée, ils venaient dans nos églises, qu'est-ce qu'ils feraient ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Méditons profondément, vous voyez pourquoi ? Parce que les fondements sont ébranlés et on s'est détourné des Écritures. Ces Écritures qui pourtant nous rendent sages à salut. C'est ce que dit Paul à Timothée, après lui avoir dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, de Timothée 3, 14, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et si aujourd'hui, on veut être propre à toute bonne œuvre, si une école biblique, elle veut lever vraiment des hommes et des femmes de Dieu, eh bien, elle doit être vraiment une école biblique. Ça veut dire une école qui n'est pas dans cette machine évangélique, mais qui a cette force de sortir. Comme le faisait Élie qui vivait dans un temps d'apostasie. Il était retiré dans le désert. L'histoire nous dit qu'il fondait des lieux dans le désert où les gens pouvaient venir à lui. Aujourd'hui, on court après les gens. Mais Jésus, il ne pouvait même pas rentrer dans les villes. Il était en dehors. Et les gens venaient à lui. Vous voyez ? Comme cette secte de Qumran qu'on a amplement redécouverte il y a quelques années. Ils avaient quitté le temple. Et ça, c'est une chose terrible, bien-aimés. Parce que le temple, c'était la présence de Dieu sur la terre. C'était le centre du monde. Ce rocher où était le Saint des Saints, quand bien même avec le second temple, l'Arche de l'Alliance, n'était plus là. C'était le centre du monde, le lieu le plus saint, le cœur de la vie de tout Israélite, du judaïsme de l'époque. Le temple, c'était le cœur. Le temple, c'était là où tout se passait. Eh bien, ces Esséniens, ils ont quitté le temple. Il y avait les pharisiens, les sadducéens et les esséniens, trois courants en particulier à l'époque. Les esséniens, ils sont sortis et ils sont partis dans le désert pour purifier leur cœur. Parce qu'ils savaient que le Messie allait venir. Et certainement que Jean le Baptiste était proche de ces esséniens. Et il prêchait un baptême de repentance, de purification. Et ces gens de Jérusalem descendaient dans le désert de Judée, pour entendre la voix qui criait dans le désert. Et vous savez ce que criait cette voix dans le désert? On peut prendre Luc chapitre 3. On va lire quelques versets sur Jean-Baptiste. Et pendant que vous prenez, j'aimerais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon cœur s'épuise, cette église, l'église sur laquelle Dieu m'a établi pasteur, et toutes les églises puissent avoir l'audace, le courage, la force, l'humilité de se laisser sonder par Dieu. L'humilité de vraiment se laisser sonder profondément par Dieu et sortir, comme cette secte de Qumran. Ah oui, peut-être qu'on sera traité de secte, de fondamentaliste, parce qu'on ne peut plus entendre la sainte parole. Comme je parlais de ce pasteur, il dit « Je ne peux plus prêcher la sanctification si les gens n'en viennent plus. » Mais qui aura le courage de se mettre à part? Tous les prophètes de la Bible, bien-aimés, ils ont été à part. Lisez la fin d'Hébreux 11, « Scié en deux, battu de verge. » Jésus dit que si on dit toutes sortes de mal de nous, c'est ainsi qu'on a traité les prophètes. Et l'histoire, elle se répète. Tous ceux qui se sont tenus fermement sur l'Écriture, sur la parole de Dieu, ils ont été rejetés. Et c'est après seulement qu'on les a encensés. C'est exactement ce que Jésus dit aux pharisiens. Il dit que s'ils avaient vécu du temps de leur père, ils auraient été ceux qui auraient versé le sang des prophètes. Mais Jésus ose dire la vérité. Vous avez pour père le diable, ils l'ont dit. Et on a besoin de se laisser sonder par Dieu. Et si on commence quelque chose pour lever des serviteurs, qu'on prie et qu'on ait vraiment la pensée de Dieu, qu'on ne se lance pas trop vite dans quelque chose, mais qu'on se dise quel fruit ça va porter, sur quelle base je veux instruire, fortifier, lever le peu de personnes qui en ont encore soif dans mon église. Et la base, c'est vraiment les Écritures. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à payer le prix pour venir directement à l'Écriture, pour enseigner l'Écriture en elle-même, pour elle-même. On entend des choses sur l'Écriture, vous voyez. Mais on n'est pas prêt à revenir à l'Écriture elle-même. Jean le Baptiste, regardez comme il prêchait l'Évangile. Je fais exprès, on va lire à partir du verset 1, mais de vous lire d'abord le verset 18. « C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. » C'est ainsi qu'il annonçait la bonne nouvelle au peuple. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétraque de Galilée, son frère Philippe tétraque de Liturée, du territoire de Trachonite, Nicianas tétraque d'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Vous voyez, c'est dans le désert que cette parole lui a été adressée. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tordu sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Jean-Baptiste, il préparait les chemins du Seigneur. Il était Élie. C'est Jésus qui l'a dit. Quand bien même Jean-Baptiste a dit qu'il ne l'était pas, Jésus a dit qu'il était bien Élie et que l'on ne l'a pas reconnu. De même, aujourd'hui, nous avons besoin de cet esprit d'Élie qui ramène les cœurs, qui ramène les vrais fondements, qui ramène au Dieu d'Israël. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères ». Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et je passe au verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couleroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main et il nettoiera son air. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Et il est dit, Hérode le tétraque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Si Dieu veut former et élever des serviteurs, aujourd'hui Dieu veut former et élever des Jean-Baptiste. Il veut former des gens avec cet esprit d'Élie qui restaure, qui amène une vraie restauration. Parce que, comme je le disais hier, ce royaume de l'Antichrist, il est en place. Et l'Antichrist, c'est ce moi développé en plénitude qui ne permet plus au monde aujourd'hui, et même aux chrétiens, d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a un humanisme aujourd'hui. On est dans notre raison en Occident, et dans nos sentiments, dans notre âme, on est pris par un humanisme qui, lorsqu'il est mis face à la parole de Dieu, rejette Dieu. Le prophète Ésaïe dit, « Je suis Dieu dès le commencement. Avant moi et après moi, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Sauveur. C'est moi qui ai annoncé, prédit, parlé, c'est moi qui sauve, c'est moi qui agirai, qui s'y opposera ?» Jésus, ce n'est pas un autre Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament. L'Église catholique, elle a tellement fait peur avec les indulgences, encore même dernièrement, hein, on a fait peur aux gens sans la puissance de Dieu. Et en particulier en France, les gens sont marqués par le catholicisme, profondément marqués par le catholicisme. Et on ne veut plus entendre parler de ce Dieu de l'Ancien Testament, comme on l'appelle. Pourtant, Jésus, Yehoshua en hébreu, on devrait le traduire par Josué si on ne passait pas par le grec, ça veut dire Yod, Evav et Sauve. C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui vient pour sauver. Et ce n'est pas un autre. Et tout l'Ancien Testament, tous les prophètes ont parlé de lui. Il est venu non pas pour enlever un iota de la Torah, mais pour tout accomplir. Parce que Moïse, tous les prophètes avaient parlé de lui, comme il a dit au témoin d'Emmaüs. Tout parle de lui. Oui, les rituels sont dépassés, comme le dit l'Épître aux Hébreux. On ne va pas refaire des rituels parce que Jésus les a accomplis. Mais c'était toutes des bases pour nous donner d'être fondés solidement, pour comprendre clairement notre salut. Et ces bases, aujourd'hui, elles sont bafouées. Posez-vous la question, pourquoi Pierre était l'apôtre des Juifs et Paul l'apôtre des païens ? Posez-vous la question. Parce que Paul était instruit dans toutes ces choses, dans la Torah. Alors il va bien sûr dire, toutes ces choses, elles sont pour moi comme de la boue, au prix du gain suréminent qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Parce qu'elle préparait cet accomplissement, ça c'est clair. Mais Paul, il était envoyé aux païens, parce que les païens, ils avaient besoin de la connaissance de Dieu. Ils avaient besoin de ces bases pour comprendre. Ils avaient besoin de cette connaissance de Dieu, de cette crainte de Dieu, de cette sainteté de Dieu que les Juifs avaient déjà. Voilà pourquoi Pierre était l'apôtre des Juifs, l'apôtre de Jérusalem, un pauvre pécheur sans instruction, mais les gens connaissaient. La puissance du Saint-Esprit faisait son œuvre à travers cet homme rempli de l'Esprit, mais un homme simple qui n'avait pas besoin de poser les fondements, de poser les bases. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On n'a qu'à le voir. Et je suis pris avec vous là-dedans. Quand on va évangéliser, il viendrait à personne de donner un Ancien Testament. On donne que le Nouveau Testament. Et des fois même, quand il y a des Nouveaux Testaments avec les psaumes, on hésite à le donner. Et on a comme peur. On n'est pas à l'aise parce que le monde ne peut plus entendre le vrai Dieu. Moi, la première fois que j'ai lu la Bible, j'ai dit « Je ne peux pas croire en un Dieu comme ça. » J'étais rebelle. Il y a un rejet de Dieu dans nos cœurs si on est face vraiment au Dieu de la Bible, qui est un Dieu juste. Et qui va nous écraser par sa colère. Et c'est pour ça que Jésus, le cœur de la coupe que Jésus a bu, c'est cette coupe que vous voyez dans l'Apocalypse, cette coupe de Babylone, la coupe de la colère de Dieu qui va être répandue. Il a bu la coupe de la colère de Dieu, il a été écrasé par la colère de Dieu. Il a fait propitiation pour nous. Dieu étant ce grand Dieu saint, le sacrifice de Jésus l'a rendu propice envers nous. Il a fait l'expiation pour nos péchés. Et vous voyez, aujourd'hui, on n'arrive plus à prêcher l'Évangile. On parle de Jésus qui vient dans notre cœur, comme on en parlait hier soir. Il faut que Jésus vienne dans notre cœur. Mais la Bible, dites-moi où est-ce que vous voyez ça marqué? On a tout un jargon et même des pratiques évangéliques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Où est-ce qu'il est écrit que Jésus rentre dans notre cœur? L'apôtre Paul, il dit qu'il a été envoyé pour prêcher la repentance. Dans le début de l'Épître aux Romains, qui est un condensé de doctrine, de saine doctrine, il dit dans ce premier chapitre et ses premiers versets qu'il a été établi par l'Esprit de sainteté qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, apôtre, pour avoir ce ministère auprès des nations, pour amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Mais aujourd'hui, on a un peuple insoumis qui ne veut plus se soumettre. Et on ne sait plus comment lui prêcher l'Évangile parce qu'il est incapable de le recevoir et même incapable de le vivre. Je disais, il y a un humanisme qui est rentré chez nous dans notre âme et il y a aussi une paresse. Ce matérialisme qu'on n'avait pas il y a 50 ans, il fait que des gens deviennent incapables de déchirer leur cœur. Mais la Bible nous dit que Dieu, lui, ne change pas. Mais ce monde a changé. Le comble du péché, oui, il est bien arrivé à son terme. Ce royaume antichristique est là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est ma question ce matin. Est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va s'adapter? Est-ce qu'on va essayer de s'adapter et de trouver des programmes, de trouver des nouvelles manières de restaurer les gens, de toucher les gens? Ou est-ce qu'on va avoir le courage de se remettre à part et de plonger dans l'Évangile de Jésus-Christ? Vous voyez, notre problème, c'est qu'on ne lit plus la Bible. On se nourrit de témoignages. On a toute une littérature évangélique. Et on se nourrit de livres, de témoignages, mais plus de la saine doctrine, plus de la parole de Dieu. Et il y en a des bons et des moins bons, des témoignages. Mais même les bons, je prendrai deux exemples, David Brenner et George Muller, deux grands hommes de Dieu. David Brenner qui est parti en Amérique du Sud, auprès des Peaux Rouges. Il aurait pu épouser la fille de Jonathan Edwards, avec qui il était fiancé. Il a tout lâché pour être au milieu. Dans la jungle, il était. Dans la jungle. Alors on lit ce témoignage de Brenner et on est touché parce qu'on voit le réveil. On voit que quand il prêchait, eh bien, les gens, ils s'agrippaient à son cheval en lui criant, en lui demandant d'être sauvé. Quand il prêchait, il y a une onction du Saint-Esprit qui ne faisait pas que tout le monde tombe par terre. Et où sont les fruits? Où sont les conversions? Je dis attention au nouvel âge, parce que les pratiques que l'on a parfois aujourd'hui dans l'Église, on ne se rend pas compte qu'elles sont plus de l'ordre du nouvel âge que de l'ordre de la Bible. Les gens, quand ils tombent dans la Bible, ils tombent en avant, face contre terre devant Dieu, et ils sont amenés à la repentance. Pas une présence qui rentre de leur cœur et qu'ils ne sont pas convertis. Ils ne produisent pas un fruit digne de la repentance. Eh bien, David Brenner, les gens tombaient face contre terre et étaient vraiment repentis. C'est le vrai esprit de sainteté, tel qu'il était à la Pentecôte quand Pierre a prêché et que 3000 âmes se sont converties. C'était des vrais réveils, comme il y en a eu après la réforme dans l'histoire. Et quand on lit ces hommes de réveil, comme George Muller qui a fondé tous ses orphelinats par la foi, on ne sait pas qu'il a lu 200 fois la Bible dans sa vie, dont 100 fois à genoux. On ne sait pas que David Brenner y passait ses nuits avec des habits complètement mouillés de transpiration parce qu'il agonisait devant Dieu. Alors on lit des récits, on lit des témoignages, et comme on a envie de voir quelque chose, on a envie de voir les œuvres de Dieu, ça part d'un désir sincère. Alors on va faire des choses, on va vivre des choses, on va pratiquer des choses qui ne sont pas des pratiques bibliques. Et qui sont ceux qui vont avoir le courage de faire comme Brenner? Pas de rêver de ce cas. Vu Brenner, mais qui vont faire comme Brenner, qui vont payer le prix comme Brenner. De se dire, comme le dit Ésaïe 63, « Nous sommes depuis longtemps un peuple sur lequel tu ne règnes plus. On voit bien que tu n'agis plus comme tu agis au travers de la Bible. et qui vont se mettre à genoux, qui vont scruter les Écritures, qui vont se repentir réellement jusqu'à un vrai agir de ce vrai Dieu, s'il devait y en avoir un. Et comme j'ai un peu parlé hier, j'en parlerai peut-être cet après-midi, jusqu'à aussi une réelle compréhension du plan de Dieu. Si ce n'est plus le temps de la moisson en Occident, eh bien de laisser Dieu nous parler de qu'est-ce qu'il veut réellement faire, comment il veut réellement se servir de notre vie. Sinon, on sert le Seigneur. Voyez, je vais vous citer une citation de ce Frédéric Goddard, un grand homme de Dieu. Écoutez un peu ce qu'il dit. Il dit « Méfiez-vous d'un zèle pastoral qui ne vous porte pas à prier. Ce zèle pourrait bien avoir d'autres objets que vous-même. » Tenez pour suspect un élan, un entrain, un feu même dans la prédication qui ne s'est pas allumé au souffle de la prière. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu que vous brûlez, c'est pour la vôtre. Dites-vous bien que vos mobiles sont impurs dans la mesure où la prière est absente de votre travail. On ne fait pour Dieu que ce qu'on fait par lui. Et dans le saint ministère, tout ce qui n'a pas été arrosé de prière n'est qu'un linge souillé, comme on vient de le voir à Jérémie 13. Des paroles fortes, mais véritables. Tous les grands hommes de Dieu, quand il y a eu des vrais réveils, je répète, qui amenaient des vrais fruits, des vraies conversions, durables, durables, c'est des gens qui ont vécu la repentance, la prière, et qui n'ont cherché nulle part, qui se sont mis à part pour plonger dans les saintes écritures, dans les vrais fondements de Dieu. C'est des gens qui étaient prêts à payer le prix. Parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix, on rentre dans des pratiques, on rentre dans des stratégies, on rentre dans tellement de choses, parce qu'on n'est pas prêt à finalement être face à Dieu, à nous laisser sonder, à nous laisser être vraiment brisés. Bien-aimé, c'est aujourd'hui qu'on doit se poser la question. Si Brenner vivait à mes côtés, si Georges Müller vivait avec moi, s'il passait une semaine chez moi, c'est maintenant qu'on doit se poser la question. Pour pas que le pan de notre vêtement soit soulevé, comme on vient de le lire dans Jérémie 13, que pas, comme Jésus le dit à l'église de Laodicée, paraisse notre honte, notre nudité. Moi, j'ai pas envie d'avoir honte quand il sera trop tard. J'ai envie d'être de la lignée de tous ces hommes et de toutes ces femmes de Dieu. Voyez, on lit la Bible, on vit des contes de vieilles femmes parfois, mais ce qui est terrible, c'est que la Bible devient un conte pour nous chrétiens. Le péché est tellement grand, c'est tellement fort, les gens n'arrivent tellement plus à entendre la parole de Dieu, que c'est plus fort que nous de l'adapter. À l'époque, les gens, ils allaient chercher de l'eau. Quand ils voulaient manger, ils devaient chasser, ils devaient retourner la terre à la sueur de leur front, ils devaient faire du feu, et pour faire du feu, ils devaient aller chercher du bois. Aujourd'hui, on est une génération d'enfants gâtés, de paresseux. Comme je l'ai prêché un jour, cette parole des Proverbes qui met la main dans le plat sans la ramener à sa bouche. Voilà ce qu'on est. On veut mettre la main dans le plat, on veut faire des choses sans la ramener à notre bouche. Ainsi, on ne goûte pas au combien le Seigneur est bon. Parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix. Et quand on lit la Bible, parfois, on est face à des contes de fées. Il y a un décalage total, vous voyez. Il y a un décalage total, il faut l'admettre. Il y a un décalage total entre la Bible et nous. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on s'adapte au monde et on trouve des nouvelles choses? On en parlait encore hier soir, notamment la guérison intérieure. De la même manière que le péché, le matérialisme, cet empire de l'Antichrist est monté en flèche ces 50 dernières années. Il y a plein de nouveaux ministères qui sont montés en flèche. La guérison intérieure, par exemple. On parle énormément de guérison intérieure. Pourquoi? Parce qu'on voit que on n'y arrive pas. Alors, au lieu de revenir à Élie, au lieu de revenir aux hommes de la Bible, à Brenner, et de poser les bases de la repentance, de la nouvelle naissance, de la vie par l'Esprit, de la sanctification, sans laquelle personne verra le Seigneur, au lieu de prêcher les bases dès le départ, on part tordu. On fait que Jésus rentre dans nos cœurs. Dès qu'on commence à évangéliser, et même parfois à prêcher, les fondements sont renversés. Parce qu'on vient et on dit aux gens, est-ce que vous avez des besoins pour les inviter? Vous avez des besoins. On fait avec l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? On fait avec l'homme. On dit, tu vas être béni. Jésus va rentrer dans ton cœur. On leur dit, peut-être même à des gens qui vont très bien, tu as tout. Il te manque juste une chose, c'est Jésus. Vous voyez? Est-ce qu'on ne dit pas ça? Et pourtant, la Bible, elle parle qu'on doit obéir à un Dieu saint devant qui on est pécheur. Mais c'est plus fort que nous de nous adapter. C'est plus fort que nous de nous adapter. Et alors, on n'a pas des vrais fruits. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui face à ce péché énorme, à ce péché qui pullule? Est-ce qu'on veut s'adapter ou est-ce qu'on veut sortir, se mettre à part, comme Daniel, se consacrer à la prière et à l'étude de la parole de Dieu? Je donnais le témoignage. J'ai passé environ 2 ans en Inde, un jour. Eh bien, il y a une dame pour laquelle on m'a demandé de prier. C'est une dame qui venait de perdre son mari. C'est une dame qui avait de très gros problèmes de santé. C'est une dame, elle l'avait perdue il y avait seulement quelques jours. Et elle venait de perdre son travail. Et elle avait plusieurs enfants. Et 10 minutes avant, on me parle de cette dame et elle arrive. Et moi, petit Européen, qui pourrait l'aider financièrement, j'étais à côté de cette personne qui commence à m'expliquer en pleurant. Je lui ai dit, attendez un moment, restez en prière. Je suis parti dans ma chambre et je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je ne peux rien faire pour cette dame. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sinon la prendre dans mes bras pour pleurer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire. Le Seigneur m'a poussé par son esprit. Me dire, maintenant, toi tu vas mettre un peu ce que tu es de côté et tu vas mettre un peu l'ego, le vieil homme de cette dame de côté, quand bien même elle est dans la... Il n'y a que mon évangile qui peut la sauver. Il n'y a que mon évangile qui peut la restaurer. Et je lui ai prêché l'évangile en lui disant, voilà, moi je ne peux rien faire pour toi. Si tu veux que je pleure avec toi, et j'avais... ce n'est pas faute de compassion, je peux vous l'assurer. Mais le Saint-Esprit est venu sur moi et je lui ai prêché l'évangile. Il fallait qu'elle se repente de ce vieil homme et qu'elle trouve la foi en Jésus-Christ. Qu'elle produise un fruit digne de la repentance. Sinon, la colère de Dieu était sur elle. Vous voyez, comment on pourrait prêcher ça aujourd'hui? Comment ce serait possible? Dieu merci de m'avoir appris son évangile pratiquement, vous voyez, en Inde. Eh bien, j'ai pu prêcher l'évangile et cette dame, ce qui paraissait inhumain, parce qu'aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, la prédication de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ, de Paul, de la Bible, elle paraît inhumaine, vous voyez. C'est la vérité, elle paraît inhumaine, parce qu'on est... L'homme règne au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, et on ne veut plus entendre parler de ce Dieu-là. À restaurer cette femme, sans même que j'aie à prier pour elle, elle était complètement guérie de sa maladie, et elle était complètement restaurée, créée de nouveau, libre, guérie. 3 jours après... Elle est allée faire des tests de tuberculose. Plus une seule trace. Elle avait 3 enfants qui avaient la tuberculose. Plus une seule trace. Elle était, parce qu'une veuve en Inde, vous voyez, c'est attaquée. Il y avait des gens qui l'attaquaient, qui lui avaient volé son acte de propriété. Il lui a été rendu, vous voyez. Et cette femme, j'en suis certain qu'aujourd'hui, c'est une femme de Dieu. Et c'est quand même dingue qu'on ne peut plus prêcher l'évangile. La vraie bonne nouvelle qui sont vraiment ici en Occident, alors que quand il y a des gens qui vivent des situations bien plus catastrophiques que les nôtres, on ose encore la prêcher. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à le prêcher. C'est un évangile qui devient inaudible. Inaudible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va revenir au fondement? Ou est-ce que l'on ne va pas y revenir, bien-aimé? On a abandonné Dieu. Le chemin, il reste le même, il n'y a que 2 chemins. Est-ce qu'on veut prendre le chemin? Et j'ose le dire, bien-aimé, je ne me pose pas en donneur de leçons qui critique toute l'Église, d'accord? Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu cherche un reste. Il cherche des Gédéons. Lisez l'histoire de Gédéon. Il dit d'abord que tous ceux qui veulent vraiment venir, viennent. Hein, que tous ceux qui ont peur, rentrent chez eux. Et ensuite, avec ceux qui sont venus, il va prendre que ceux qui ont l'appelo comme des chiens, vous voyez. Il va prendre que ceux qui sont vraiment prêts à mourir à eux-mêmes. Dieu cherche ces Gédéons. Dieu cherche ces Michées, vous voyez. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas, d'Akab et Josaphat qui veulent partir à la guerre. Et tous les prophètes leur disent paix, victoire. Ils font même des mimes prophétiques pour leur dire qu'ils vont y arriver. Mais il y a Miché. Et Miché, on ne veut pas l'entendre. Qui nous voulons être, bien-aimés? Est-ce qu'on veut être de la bande de ces prophètes qui prophétisent la paix? Vous voulez savoir? Je crois qu'en France en particulier, eh bien Dieu va lever deux catégories de personnes, et les deux sont des prophètes, des vrais ou des faux. Étant donné ce que l'on vit, l'état de l'Église, eh bien de plus en plus on verra la différence entre des faux prophètes qui parleront de bénédictions, qui parleront de choses, qui feront croire que la paix est là, qui entraîneront ici, vous connaissez bien la Bible, c'est une chose claire, et des vrais prophètes, oh, qui ne seront pas beaucoup, qui ne seront même pas beaucoup entendus, qu'on n'aimera même pas entendre, comme l'était Miché. Qui voulons-nous être? Miché ou toute cette bande de prophètes? Est-ce qu'on veut être Élie ou toute cette bande de prophètes de Baal et d'Astarté? Quitte à ce qu'on soit déçu, quitte à ce que comme Élie, on ait envie de mourir, bien-aimé, et que Dieu vienne surnaturellement pour nous donner la force de remonter jusqu'à sa montagne. Les vrais hommes et les vraies femmes de Dieu, aujourd'hui, sont des hommes et des femmes seuls, qui vont souffrir de la solitude, bien-aimé. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et pas ici en France, ce n'est pas une persécution de coût, c'est une persécution spirituelle. Mais qui est prêt à payer le prix? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce règne messianique, on doit le préparer, il vient. Et si on veut du vrai fruit, il faut des vrais fondements. Et il faut oser se remettre en question. Il faut oser être seul. Il faut oser ne pas paraître grand, mais être des tout petits. Voyez. Tous ces petits troupeaux de la Bible, toutes les guerres que vous voyez dans la Bible, c'était qu'une petite poignée devant des armées nombreuses. Est-ce qu'on veut être de ceux-là? Parce qu'on est fidèle à Dieu, comme ces Maccabées, qui ont repris cette parole ni par puissance ni par force, mais par mon esprit. C'est Zacharie qui prophétisait à Esdras et Néhémie qui sont revenus de Babylone pour reconstruire le temple. Et le prophète a dit, ni par puissance ni par force, mais par mon esprit, soyez attachés à moi. Persévérez, soyez attachés à moi et redescendez sur vos genoux dans la prière, dans les Écritures, parce que nous vivons dans des jours mauvais, dans des jours très mauvais. Et on peut tous être séduits. Et personne ne peut se dire indemne. Voilà pourquoi on doit vraiment, je crois que la marque de ce que l'on doit être aujourd'hui, c'est la marque de l'humilité. Pourquoi je répète, je ne me pose pas en donneur de leçons. C'est des choses que je viens de vous dire qui viennent du brisement, de la prière, de la vraie adoration de Dieu. Que Dieu fasse de nous des vrais adorateurs, fasse de nous ce vrai reste qui pourra manifester le Christ de Dieu. Amen.